de cette présence d'arbres qui sont tordus, cassés à certaines hauteurs, dont les branches sont même entortillées, évidemment. Alors Jean-Miguel, qui est en même temps président du Centre de recherche en France sur le phénomène ufologique, le groupe Cirrus, quelles en seraient d'abord vos premières conclusions?
Eh bien, je crois qu'il serait extrêmement prétentieux et prématuré d'apporter une conclusion. Car, comme vous l'avez dit, nous manquons d'éléments essentiels pour apporter une conclusion définitive qui se veut, quant à moi, une conclusion scientifique. Je crois qu'on peut déjà observer plusieurs choses. Le fait d'abord que nous voyons un désastre, une sorte de petit désastre à petite échelle, de ces arbres complètement couchés, les branches vrillées, etc. On peut déjà dire une chose, c'est que ce n'est pas un dégât fait par la main de l'homme, déjà. Alors que reste-t-il? Ce n'est pas fait par la main de l'homme, que reste-t-il? Eh bien, hélas, nous nous trouvons en présence de quelque chose qu'on peut interpréter différemment. On pourrait dire d'une part, effectivement, si l'on veut s'adonner assez facilement et trop rapidement aux rêves, on pourrait parler d'une tentative d'atterrissage de soucoupes volantes, effectivement. Car au cours de plusieurs témoignages dont j'ai enquêté personnellement, on retrouve ces mêmes phénomènes d'arbres vrillés, d'arbres affaissés, etc. Seulement, lorsqu'il y a tentative d'atterrissage d'une soucoupe volante, les arbres ne sont pas couchés tous dans le même sens, mais ils sont couchés dans les quatre points cardinaux, comme si une fleur s'était ouverte. Or là, ce n'est pas le cas, et on voit les arbres couchés seulement dans un sens. Cela ne veut pas dire pour autant que ça ne peut pas être une soucoupe volante. Ça peut toujours être une soucoupe volante. Alors, que peut-il s'être produit ici? Eh bien, si c'était une soucoupe volante, je dis bien si, car je veux garder une réserve, un recul qui se veut scientifique. Eh bien, si c'était une soucoupe volante, je pense qu'elle a dû tenter d'atterrir, elle a dû tenter de se poser, mais s'apercevant, les occupants de cet engin, s'apercevant qu'il était impossible vraiment d'atterrir, ont redécollé, sont repartis en présentant la face inférieure de la soucoupe dans le sens où les arbres sont vrillés, c'est-à-dire en montant comme cela et en partant dans ce sens-là. Ce qui expliquait que les arbres soient vrillés seulement dans un sens, couchés seulement dans un sens. Maintenant, il y a une autre explication qui se veut aussi toute scientifique, c'est que si l'on veut rester rationnel et prudent, ce que je veux faire d'ailleurs, on pourrait également évoquer le tourbillon magnétique. Car vous savez que un tourbillon magnétique peut avoir les mêmes effets catastrophiques dans une forêt que pourrait l'avoir la tentative d'atterrissage d'une soucoupe volante. Et là, ça pourrait être un tourbillon magnétique parce que toutes les caractéristiques sont les mêmes avec la tentative d'atterrissage. Alors, une conclusion, comme je le disais, c'est prématuré, nous n'avons pas tous les éléments en main, mais on peut donc émettre deux hypothèses, soit un tourbillon magnétique, soit la tentative d'atterrissage d'une soucoupe volante.
Ici même, au Québec, il faut rajouter peut-être une troisième possibilité, c'est de la neige en trop grande quantité dans un endroit précis à cause de la formation de la montagne ici autour, qui fait que la neige se serait accumulée dans cette zone, que le sol étant peut-être irrigué à un moment donné au printemps plus vite qu'ailleurs, les arbres ont été tordus, ont ployé sous la pression de la neige, parce qu'ici il peut y avoir jusqu'à 3 pieds, 4 pieds de neige à un moment donné durant l'hiver. On est quand même, je le répète, très au nord, on est dans les Laurentides, au-delà de Saint-Jovite, et ce poids de la neige peut avoir fait tordre certains arbres et les avoir fait tomber, casser à une certaine hauteur, déraciner parce que le sol n'était pas suffisamment fort
alors
pour les retenir.
Quant à moi, je réfute absolument cette hypothèse, en ce sens que si ça avait été de la neige, les arbres autour auraient été touchés au même titre qu'ici. Pourquoi la neige serait concentrée à un seul et même endroit? D'autre part, si la neige avait pesé sur ces arbres, ils auraient été cassés à la base. Or, là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de cassure à la base. Ils sont simplement tordus comme des bâtons de chewing-gum.
C'est ça.
On ne peut donc pas du tout évoquer. Ils sont tordus, ils ne sont pas cassés. Et la neige ne tordrait pas. La neige aurait fait affaisser les arbres. La neige les aurait, à la limite, déracinés comme celui-ci. Mais celui-ci n'est pas déraciné, il est tordu comme un bâton de chewing-gum. Alors là, je réfute absolument la neige. Non, ce n'est pas la neige.
Eh bien, maintenant...
Tourbillon magnétique ou tentative d'atterrissage d'une soucoupe volante.
Alors,
et comme
ça reste à nos
gens
de...
Bien sûr, et comme beaucoup de... Enfin, nous avons rencontré ici deux ou trois personnes qui ont témoigné, qui ont dit avoir vu à plusieurs reprises ici des lueurs étranges dans cette forêt. Comme par ailleurs, on nous a dit qu'il y a là, un peu plus haut... une mine de quartz, une mine de
comment
dirais-je de Non, la chaleur, on nous a expliqué également qu'il y avait une chaleur. Non, mais là, ici, il y a une mine de...
Il y a des cristaux.
Des cristaux, oui. Il y a des cristaux. Et la chaleur qui a été ressentie ici dans la forêt, tout ça, pourrait nous tenter de nous faire croire que c'est effectivement l'approche d'une soucoupe volante qui aurait causé cette catastrophe. Mais en tout cas, je reste prudent en disant que c'est aussi, peut-être, un tourbillon magnétique.
Parfait, monsieur Jean-Miguel, je vous remercie. On se retrouve encore un petit peu plus loin dans notre aventure d'aujourd'hui. J'espère que nos gens apprécient actuellement. Nous n'avons pas fini d'en apprendre encore sur le phénomène extraterrestre. Restez des nôtres.